Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus où que vous soyez sur la planète. Le débat du jour, où en sommes-nous dans la pandémie de Covid ?
RFI.
La pandémie de Covid-19 prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin, car tous les outils sont désormais disponibles pour combattre le virus. Ce sont les propos du chef de l'OMS. Hier, 24 octobre, en déplacement à Berlin, Tedros Ghebreyesus déplore que jusqu'ici, le monde n'ait pas utilisé tous les outils à sa disposition et notamment la vaccination, le tout à bon escient. Enfin, il renouvelle ainsi ses appels à une plus grande distribution, une distribution plus équitable des vaccins. Plus d'un an et demi après la déclaration de la pandémie par l'OMS et des outils mis en place, comme le port du masque, les gestes barrières, les vaccins, je vous le disais, où en sommes-nous dans cette pandémie ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos trois invités, trois professionnels de santé.
RFI.
François Bricaire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Infectiologue, membre de l'Académie nationale de médecine. Nous sommes au téléphone avec Philippe Amouyel, bonsoir.
Bonsoir.
Épidémiologiste, vous êtes à Lille, professeur de santé publique au CHU de Lille. Et puis à Marseille, Étienne Decroly, bonsoir.
Bonsoir.
Virologue, spécialiste des virus émergents, directeur de recherche au CNRS au sein de l'université d'Aix-Marseille. Alors en guise d'introduction, je vous le disais hier, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement sur l'évolution de la pandémie de Covid dans les prochains mois. Si nous n'accélérons pas la vaccination, est-ce que vous partagez cet avis, François Bricaire ?
Écoutez, je crois que le monde n'est quand même pas suffisamment masochiste pour dire qu'on n'a pas utilisé volontairement un certain nombre de moyens. C'est vrai qu'on peut faire mieux. Et si le directeur de l'OMS veut nous faire dire qu'il faut aller plus loin dans la vaccination et en particulier partager avec le reste du monde les vaccins, là, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut espérer avoir une amélioration. Mais je pense que on ne maîtrise pas tout, loin de là. On voit bien que l'évolution...
La modestie est encore de rigueur.
Ah, je pense que la modestie est indispensable parce qu'on voit combien on se trompe et je pense que notre collègue en épidémiologie peut le confirmer.
Philippe Amouyel, vous avez des indicateurs pour nous dire aujourd'hui où en sommes-nous dans cette pandémie de Covid ?
Alors, la pandémie de Covid actuellement continue à frapper la planète, alors de manière hétérogène suivant les différentes régions et suivant les systèmes d'information qu'on a. On ne peut pas comparer le système d'information qui remonte les cas qu'on peut avoir en France ou en Europe à celui qu'on a dans les pays de l'Est ou en Asie ou en Afrique. Donc il faut prendre tout ça avec mesure, mais il y a des concepts qui sont évidents, qui sont que finalement, tant qu'on n'aura pas une couverture vaccinale suffisante à l'échelle du monde, on aura toujours le risque de résurgence. Alors, on va pas. Ça a été difficile de vacciner près de 90% des Français éligibles. Vous imaginez ce que ça peut représenter au niveau de la planète. Donc, il faut réfléchir à la logistique et à l'organisation. Mais il est important de démarrer cette réflexion et de commencer à s'engager.
Étienne Decroly, lorsque le chef de l'OMS déplore que jusqu'ici, le monde n'ait pas utilisé ses outils à bon escient, notamment la vaccination, vous acquiescez ?
Oui, je crois que la question qui est sur la table est clairement comment est-ce qu'on répartit les doses actuellement disponibles. Et donc on a différents choix qui s'offrent à nous et on a aussi un devoir de solidarité provenant des pays du Nord vers les pays qui ont moins de moyens financiers à leur disposition de manière à permettre la vaccination de populations prioritaires. On voit que la vaccination permet de lutter de manière très efficace contre les maladies sévères et donc il faut que les personnes qui sont les plus à risque aient à disposition le plus rapidement possible les vaccins les meilleurs possibles. On sait que chaque vaccin n'a pas la même efficacité en fonction de l'âge des personnes qui vont être vaccinées et donc il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour la disponibilité au niveau mondial de ces vaccins.
En tant que virologue, comment expliquez-vous la disparité de la propagation du virus aujourd'hui, 25 octobre, à travers la planète ?
Alors il y a toute une série de choses qui entrent en jeu. Il y a évidemment la couverture vaccinale qui est quelque chose qui est important. Il y a les mesures évidemment en barrière qui restent de mise parce que ce qu'on comprend bien, et c'est une surprise, c'est que on voit que la vaccination marche même contre les variants de manière relativement efficace. En tout cas, certains des vaccins marchent très bien contre les variants en ce qui concerne la maladie. Mais malheureusement, une des mauvaises nouvelles qu'on a sur les derniers mois, c'est que finalement, l'efficacité de la vaccination contre la transmission interhumaine n'est pas aussi efficace qu'espérée et qu'elle s'estompe au cours du temps. Et donc, effectivement, on va devoir, en delà de la vaccination, garder pendant les mois qui viennent d'autres mesures qui sont les mesures barrières qu'on connaît bien, et on va devoir les utiliser de manière conjointe avec la vaccination si on veut limiter la circulation du virus pour limiter les variants.
Justement, sachant qu'avec l'apparition des variants, François Bricker, la stratégie vaccinale est mise à mal ou en difficulté.
Oui, enfin, heureusement, comme ça a été évoqué, les vaccins fonctionnent sur les variants. Le problème, c'est effectivement qu'en dépit de la vaccination, il y a une circulation du virus qui perdure et donc une transmission possible d'un individu à un autre. On a une bonne vaccination, c'est sûr, mais nous n'avons pas une vaccination parfaite. Et une vaccination parfaite, si vous voulez, ce serait celle qui, d'abord, assure une protection contre toutes les manifestations clinique quelle qu'elle soit, et deuxièmement, qui arrêterait automatiquement le portage, donc la transmission d'un individu à un autre. Et donc là, on aurait une efficacité beaucoup plus rapide et beaucoup plus certaine. Et on n'a pas ça.
L'efficacité du vaccin contre le Covid fait-il encore débat ou pas aujourd'hui, Philippe Amouyel ?
Non, il n'y a plus de débat là-dessus. On sait qu'il y a des niveaux de protection, mais elle n'est pas de 100%. Donc, quand on vaccine toute une population, il y a toujours des phénomènes d'échappement, avec un effet extrêmement fort sur la diminution du risque de maladie grave, mais quand même une certaine possibilité de transmission, mais qu'il faut bien le reconnaître, est quand même beaucoup moins rapide que dans une population non vaccinée. On n'a qu'à voir l'exemple qu'on a eu malheureusement cet été avec nos domaines et territoires d'outre-mer.
Comment d'ailleurs expliquez-vous parfois cette réticence à se faire vacciner ?
Alors c'est très compliqué, hein, parce que ça relève de la psychologie des individus et des pays dans lesquels on vit actuellement. On assiste à une poussée extrêmement importante dans les pays de l'Est, qui atteignent des seuils extrêmement élevés, et on assiste dans la plupart du temps à des taux de vaccination qui sont inférieurs à 60% de la population, voire 30%.
Est de l'Europe, hein, vous pensez ?
Est de l'Europe, pardon, oui, est de l'Europe, bien sûr, y compris Russie et jusque-là. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a une réticence et un manque de confiance également dans les gouvernements en matière de vaccins par la population. Donc en particulier en Russie, on aurait pu s'attendre, avec mise à disposition d'un vaccin qui est le Sputnik V, d'avoir une population plus vaccinée que ça, et non, apparemment il y a des réticences. Là encore, de même qu'il y a des réticences y compris en France et y compris dans le domaine des territoires d'outre-mer.
François Bricker.
Oui, on voit bien qu'on a du mal à persuader tout le monde de l'importance de la vaccination. Ceci étant dit, il y a eu quand même des progrès majeurs et pour rester au niveau français, on a vu quand même que en métropole en tout cas, on arrivait à vacciner pas mal de personnes, et avec une augmentation régulière du pourcentage de sujets vaccinés. En revanche, il reste toujours une frange de la population qui est opposée, qui ne veut pas se faire vacciner. C'est regrettable, c'est d'autant plus regrettable que la vaccination, ça devient un geste civique, et que si on veut, comme on l'a évoqué, arriver à contrôler le phénomène épidémique, il faut qu'on vaccine avec une couverture vaccinale qui soit la plus complète possible.
Un mot sur l'efficacité du vaccin à l'égard maintenant des plus jeunes. Aujourd'hui, lundi 25 octobre, le laboratoire Moderna a dévoilé des résultats positifs sur son vaccin contre le Covid chez les enfants de 6 à 11 ans. L'entreprise donc présentait ses données aux régulateurs dans le monde à court terme en vue d'une autorisation. Les essais cliniques ont été menés sur près de 5000 enfants de cette tranche d'âge et ont montré une réponse immunitaire robuste en termes de niveau d'anticorps. La vaccination des enfants reste aussi, d'après vous, un des enjeux du moment, Étienne de Crouly ?
Je crois qu'on est face à un choix stratégique là. La question est de savoir, à mon sens, hein, est-ce qu'il vaut mieux, au vu des doses disponibles de vaccins aujourd'hui, vacciner davantage au niveau mondial des populations qui sont très à risque, ou est-ce qu'il faut que ces doses soient acheminées dans les pays européens pour faire une vaccination des jeunes ? Donc je crois qu'en termes de santé publique globale, si on regarde cette information au niveau global, il vaudrait mieux, à mon sens, vacciner d'abord les populations les plus à risque, parce que c'est elles que le bénéfice de la vaccination est le plus élevé. Si, par contre, on avait une situation où la vaccination protégeait complètement la transmission, la réponse serait peut-être différente. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où la vaccination, malheureusement, protège partiellement, mais pas complètement la transmission. Et donc, la question, effectivement, mérite d'être posée.
Philippe Amouyel, les enfants sont-ils prioritaires ou pas ?
C'est une question qui est tant sanitaire que politique. Hein. Je crois que là, il y a un enjeu, la priorisation. Autant, on peut dire, est-ce que ça apporte un bénéfice? Quel est le bénéfice en termes de risque? Quel est le bénéfice en termes d'effets indésirables? Ça, on peut le mesurer. C'est ce que vont faire les agences. Hein. Très concrètement, on va voir l'expérience américaine qui, à partir du 1er novembre, devrait commencer à vacciner près de 30 millions d'enfants. Maintenant, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que, si par exemple, suffisait de faire cette troisième dose chez les plus âgés, nous permettrait finalement de passer un hiver assez serein? Et à ce moment-là, ben, les doses qui viennent pourraient peut-être être utilisé pour étendre la vaccination sur la planète, comme on l'avait dit au départ de l'émission.
Étienne De Crolly, quelles doivent être les populations prioritaires en termes de vaccination, selon vous ?
Ben, ça, on le sait bien. Les personnes qui sont prioritaires, c'est les personnes qui sont âgées, au-delà de 65 ans, les personnes qui sont dans des populations à risque pour des questions de complications médicales autres. Là, c'est vraiment les personnes prioritaires. Et puis, la priorité doit aussi se faire sur l'évolution de ces vaccins, parce qu'on voit qu'on a des variants. Et donc, il va falloir probablement progresser également pour avoir des vaccins qui protègent mieux contre les variants. Et donc là, on a des marges de manœuvre importantes. Et surtout aussi, il va y avoir des nouvelles technologies probablement qui vont être développées, qui permettront d'avoir des vaccins cette fois-ci qui protégeront contre les maladies sévères, mais qui protégeront mieux contre la transmission. Et donc, il y a également des espaces de recherche et développement qui sont très importants pour aller vers de meilleurs vaccins.
François Bricard, la vaccination des enfants reste prioritaire, si j'ose dire, pour les pays riches à l'heure actuelle ?
Écoutez, les États-Unis montrent l'exemple en décidant de vacciner les petits, hein, les 5 à 11 ans. On va voir ce que ça donne. Il faut rester prudent dans la décision que l'on prend vis-à-vis des enfants en termes de bénéfice-risque. Ça a été dit. Globalement, si l'efficacité est bonne, si la tolérance paraît satisfaisante, il n'est pas absolument anodin de décider cette vaccination des tout-petits, enfin, ou des petits, disons, dans la mesure où, tant qu'on n'a pas la certitude que le bénéfice l'emporte largement, or les enfants, on l'a dit, sont des transmetteurs, mais ne font pas spécifiquement ou spécialement des formes sévères, donc il faut bien y réfléchir. Je crois que ce qui est effectivement important, ça a été évoqué, c'est qu'il faut qu'on ait le maximum de doses pour pouvoir les donner ou les distribuées dans les pays qui en ont besoin.
Et aujourd'hui, elles existent. Alors, le maximum, il est atteint ?
Elles existent partiellement. Il y a eu quand même un certain nombre de déboires dans les souhaits qu'on avait ou que les associations, que COVAX, le système COVAX avait de distribuer des vaccins, ne serait-ce que ce qui s'est passé en Inde, hein, où la production de vaccins indien a été un peu stoppé parce que le phénomène épidémique devenait important en Inde et que les priorités changeaient et que par conséquent on ne pouvait plus servir les autres pays comme on l'aurait souhaité. Mais il est incontestable, et là on tourne un petit peu en rond, mais tant que toute la population mondiale ne sera pas avec un niveau de protection suffisant, on sera en situation difficile de voir le phénomène épidémique repartir et de voir certains pays en grande difficulté.
L'enjeu maintenant est bel et bien, vous le confirmez aussi, de partager les vaccins comme le recommande l'OMS, Philippe Amouyel.
Et oui, il faut savoir que dans les commandes de vaccins et les précommandes qui ont été faites, quand on voit le nombre de doses, on peut probablement vacciner la population française 2 ou 3 fois. Donc on doit pouvoir mettre ces doses de côté parce que c'est aussi dans l'intérêt des pays riches qu'on n'est pas à retrouver de nouveaux variants qui vont apparaître parce que le virus sera multiplié dans des lieux qui n'avaient pas de couverture vaccinale suffisante. Donc il faut vraiment avoir cette volonté et cette décision de commencer à mettre ça en œuvre et à réfléchir à la logistique également, parce que je vous rappelle que les vaccins sont dans des conditions de conservation qui sont extrêmement complexes. Actuellement, les vaccins ARN messagers, il faudra peut-être éventuellement se tourner vers d'autres types de vaccins qui peuvent être conservés à des températures inférieures, plus compatibles avec des lieux beaucoup plus pauvres où l'électricité des congélateurs à moins 80 sont des denrées extrêmement rares.
Justement, avec un peu de recul, est-ce que vous préconisez tel ou tel vaccin aujourd'hui contre le Covid, Philippe Amouyel ?
Alors, je sais pas, je suis pas un spécialiste de ces vaccins, mais imaginez un vaccin qui montait sur le modèle de la grippe comme celui qui est en train de préparer Sanofi pourrait être une hypothèse, surtout que le prix de revient semble être plus faible et que sa conservation plus simple. Mais là, il faut demander à mes collègues.
Étienne De Crolly.
Oui, je crois que sur ce point-là, dans l'état actuel des connaissances, il y a clairement des vaccins qui ont une efficacité de protection qui est meilleure que d'autres. Et il y a également possibilité d'avoir des stratégies de vaccination qui consistent à mélanger des vaccins qui, semble-t-il, donnent des résultats qui sont encore meilleurs que l'utilisation seulement d'un type ou d'un autre type de vaccin. Et donc, je crois qu'il faut explorer ces possibilités, d'une part, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut vacciner les populations avec les meilleurs vaccins actuellement disponibles.
Lesquels, en l'occurrence ?
En l'occurrence, les vaccins ARN qui assurent la protection maximale. Et ce qui est, semble-t-il, encore meilleur, d'après quelques études préliminaires, c'est la vaccination conjointe ou avec une première dose du type vaccin du type AstraZeneca suivie de vaccin ARN qui semble offrir la meilleure protection actuellement.
François,
donc voilà, il faut explorer ces choses.
François Bricaire.
Oui, alors il y a toute une stratégie qui est peut-être un peu plus complexe qu'on peut l'imaginer, parce que ce que nous, on arrive à faire dans les pays développés en utilisant systématiquement des vaccins ARN, c'est beaucoup plus délicat de les transférer dans des pays où la géographie, enfin la climatologie n'est pas favorable, où la possibilité d'assurer la chaîne du froid sont difficiles. C'est d'ailleurs un peu pour ça que la France avait proposé de plus de vaccins AstraZeneca en don pour les pays africains. De même qu'il avait été proposé Johnson & Johnson, plutôt que de prendre le risque, je dirais, d'utiliser du Pfizer et d'avoir une rupture de la chaîne du froid.
Le débat du jour.
Où en est-on de la pandémie de Covid-19 ? Avec trois professionnels de santé ce soir, François Bricaire, Philippe Amouyel et Étienne Decroly. Si dans certains pays, j'ose dire, ça va un peu mieux, est-ce que le risque maintenant n'est pas de baisser la garde, Philippe Amouyel ?
Et oui, c'est en fait ce qui est en train de se passer en France. Je pense que notre plus grand ennemi, ce sont nos propres comportements. Je vais prendre juste un exemple. Au moment de la deuxième vague, quand on a mis en place un confinement allégé, on s'est aperçu que la baisse du nombre des cas était aussi rapide que lors de la première vague. Et brutalement, elle s'est arrêtée le 1er décembre. On est parti sur un plateau assez haut, à 10 000, 12 000, et de près l'année, il n'y avait pas d'événement particulier qui survenait, à part un changement de nos comportements, à part un allègement de nos comportements lié à l'arrivée de Noël, en l'occurrence, à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation. On a une courbe en France qui a tendance à diminuer, qui diminue depuis plusieurs semaines, et qui là vient de s'arrêter. Ça remonte un peu, c'est pas très stable, et on sent qu'il y a un changement de comportement, et là, on en a des preuves indirectes, puisque à la même époque, l'année passée, on avait plus de grippe, plus de gastro-entérite et plus de bronchiolite. Et là, les grippes, les gastro-entérites et les bronchiolites sont reparties. Et là, on a directement un effet probablement de la suspension et de l'allègement conscient ou inconscient d'un certain nombre de mesures barrières. Donc finalement, il faut encore, tant qu'on n'a pas réglé les problèmes qui ont été évoqués par le directeur de l'OMS de vaccination, continuer à ne pas baisser la garde, sinon on risque d'augmenter. Alors en France, ça va encore, on a des outils, on a un bon taux de vaccination, mais si on prend le Royaume-Uni, les chiffres continuent à monter. Alors ils sont juste en train un peu de baisser depuis 48 heures, mais ils sont à des seuils qui sont extrêmement élevés. Même chose dans les pays de l'Est. Donc il faut continuer à mettre en place les mesures de protection et les vaccins. Enfin, on ne réussira pas qu'avec les vaccins, on ne réussira pas qu'avec les mesures de protection.
Est-ce que vous partagez à Marseille, Étienne Decroly, virologue ?
Oui, je partage. Je crois que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que plus ces virus circulent, plus ils mutent. Et plus ils mutent, plus il y a des variants. Et plus il y a des variants, plus on est en difficulté par rapport à la vaccination. Donc l'enjeu, si on veut sortir de cette crise, c'est effectivement d'arriver à être sérieux sur à la fois les gestes barrières, qui doivent être utilisés de manière concomitante à la vaccination, jusqu'au moment où on va arriver à des taux de circulation qui seront suffisamment bas pour pouvoir retrouver des conditions de vie qui sont normales. Et donc pour l'instant, malheureusement, si on ne veut pas retourner vers des confinements partiels ou des télétravails imposés de manière plus importante, eh bien il faut que dans les gestes quotidiens de la vie, quand on va dans des espaces collectifs, dans les transports en commun et ça, il faut continuer, malgré la vaccination, à porter avec rigueur les masques. C'est très important.
François Bricaire, on sent bien, si on prend l'exemple français, que la garde baisse légèrement, non, à l'égard des gestes barrières. Je prends juste cet exemple, les gens recommencent à s'embrasser, oui, se serrer
oui,
la main.
Oui, bien sûr. Hein. On le comprend d'ailleurs dans une certaine mesure, parce que depuis le temps que ça dure, les gens sont un petit peu lassés. Et il suffit qu'on annonce quelques chiffres favorables pour que les gens se disent, après tout, on peut lâcher les gestes barrières. Et je pense qu'il faut là faire vraiment, vraiment très, très attention. On est entouré par un pays qui est la Grande-Bretagne, qui nous précède souvent avant que ça nous arrive derrière. Et là, on a vu que c'est une nouvelle poussée qui s'est passée. Puis de l'autre côté, les pays de l'Est, comme ça a été dit tout à l'heure, où il y a une forte augmentation hein, dans beaucoup de pays, y compris la Russie.
J'en profite pour dire juste que Vladimir Poutine, lui, a décrété une semaine de chômage pour tenter de juguler la propagation du virus.
Absolument. Bon, ceci étant dit, au-delà de ces mesures barrières qu'il faut absolument soutenir, au-delà de l'importance qu'on a évoquée de la vaccination, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous échappent un peu et qui font que, d'un point de vue évolution du phénomène épidémique, on a des surprises. Et que, de temps en temps, on voit bien que la courbe naturelle, un peu en cloche ou avec un plateau, puis après une montée, une redescente, s'exprime partout. En Angleterre, là, il y a eu cette poussée, puis ça commence à diminuer. Et je pense que quoi que les Russes puissent faire, ça va monter, ça va passer par un plateau, puis ça va redescendre. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention, nous, puisque ça s'est amélioré, mais ça repart un peu. Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que ça ne monte pas trop haut, même si ça doit redescendre après.
Je voulais vous faire réagir, nos trois invités ce soir sur RFI, sur l'efficacité du pass sanitaire en France. Est-ce pour vous un modèle exportable, François Bricker?
Écoutez, je pense que l'intérêt de ce pass, c'est de stimuler les gens pour se faire vacciner. Et que si malheureusement nous n'avons pas su, d'un point de vue, technique, scientifique, expliquer la valeur et l'importance de la vaccination, le fait de leur dire « si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous ne pourrez pas travailler ou vous ne pourrez pas surtout aller au restaurant ou au cinéma », ça déclencher une poussée de personnes venant se vacciner. Moi, je vaccine tous les jours à l'Hôtel Dieu de Paris et je vois bien les gens qui viennent en disant « Écoutez, on a besoin d'eux, il faut que... » Et donc, ça nous plaît peut-être pas toujours, mais on vient se faire vacciner.
Philippe Amouyel, une réussite, le pass sanitaire en France ?
Alors oui, on n'a pas été les premiers. Hein. Le Danemark a ouvert la voie et on se rend compte au Danemark, quand ils l'ont levé là depuis 15 jours, ils sont en train de repartir. Donc il y a trois fonctions dans le pass sanitaire. La première, c'était la diminution de la transmission. La deuxième, ça permet de maintenir quand même une certaine activité économique, en particulier dans les restaurants, dans les lieux de sortie. Et la troisième, qu'on n'attendait pas complètement, c'est cette espèce d'effet neuf sur la vaccination où on a vu prendre 1 200 000 rendez-vous le lendemain de l'annonce de l'obligation du pass sanitaire. Comme disaient vos collègues journalistes aux États-Unis quand ils vous interviewent, ils disent « Vous, les Français, quand on touche à vos vacances ou à vos sorties au restaurant, à ce moment-là, vous réagissez, vous n'avez pas besoin de loterie et d'autres éléments. » Donc ce sont les trois grands intérêts de ce pass. Et je pense qu'aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire plus de vaccination, fin des remboursements des tests de confort, entre guillemets, et introduction dans le pass sanitaire des adolescents, on a un outil qui peut assurer un bon niveau de prévention et économique et des contaminations, en plus des mesures qu'on a vues précédemment.
Étienne de Crolly, sur la question du pass sanitaire.
Oui, je serais plus modéré sur le pass sanitaire. Je crois que c'est une stratégie politique, effectivement, qui a visé à augmenter le taux de vaccination. Et on a probablement réussi à avoir 10 ou 12% de personnes vaccinées en plus grâce à cette mesure. Par contre, je crois que la population résiduelle qui ne se vaccine pas ne se vaccinera pas s'il y a un effort de pédagogie supplémentaire n'est pas fait, de manière à mieux expliquer l'intérêt de vaccination, qui est un intérêt personnel, mais également un intérêt collectif. Et donc, je crois que malheureusement, le pourcentage de personnes qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées, eh bien, va résister avec ou sans passe. Et il faut que maintenant, on travaille de manière à ce que ces personnes-là également comprennent l'intérêt de la vaccination, comprennent que cette vaccination, en tout cas, a beaucoup moins de risques pour ces populations que s'ils n'étaient pas vaccinés. Et une fois que ce message pédagogique aurait été fait correctement, je crois qu'on pourra encore augmenter davantage le taux de vaccination. Et ce n'est pas avec davantage de mesures contraignantes, à mon sens, qu'on va aller plus loin aujourd'hui dans la vaccination.
Des personnes qui ne sont pas encore vaccinées en attendant peut-être l'immunité collective. Où en sommes-nous, Étienne de Crolly ?
Mais malheureusement, l'immunité collective, on en est loin parce que ce qu'on espérait en tout cas avec les premiers résultats vaccinaux, c'est que l'immunité humorale telle qu'elle était stimulée, donc les anticorps, soient suffisantes pour que les personnes vaccinées ne soient plus porteurs du tout du virus et ne transmettent plus du tout. Or, il s'avère que ce n'est pas exact, qu'il reste des transmissions résiduelles par les personnes qui sont vaccinées, qui font peu de symptômes, et donc ça c'est une difficulté. Donc je crains malheureusement qu'aujourd'hui on ne soit pas en capacité d'atteindre l'immunité collective avec la vaccination telle qu'elle existe aujourd'hui.
François Bricaire.
Oui, c'est compliqué l'immunité collective, parce que d'un point de vue théorique, effectivement, on a toujours dit que si on atteignait un certain degré, on arrivait à empêcher le virus de circuler, puisqu'il n'infectait plus les personnes. Or, on voit bien que c'est pas exactement ce qui se passe, et même lorsqu'on augmente le taux de vaccination et qu'on aboutit à des chiffres qui sont pas loin de là d'être parfaits, mais qui sont bons, eh bien, la transmission persiste et que par conséquent, il y a quand même un risque d'évolution du phénomène épidémique.
Malgré une immunité collective, ça n'empêche pas la transmission du virus, hein, Philippe Amouyel.
Alors, ça la diminue quand même très significativement, ça c'est clair, mais ça ne la bloque pas complètement comme on aurait pu l'espérer. Il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que les virus ont énormément muté et leur seuil de transmissibilité, enfin leur coefficient de réplication est devenu extrêmement important, hein, rapprochant de celui de la varicelle, hein, qui évolue également par type épidémique. Donc ce qui suppose un très grand nombre de personnes vaccinées, et pas uniquement en France, hein, également dans les pays limitrophes, pour éviter toute rediffusion du virus et repassage par des personnes qui pourraient faire des formes asymptomatiques. Et il faut savoir que le taux de vaccination étant pas le bénéfice de la vaccination étant pas de 100%, ça nécessite encore d'augmenter le seuil. Donc quoi, en gros, 100% de la population vaccinée, c'est un objectif extrêmement difficile à atteindre. Donc, il faut continuer à maîtriser la circulation du virus avec des gestes barrières, des mesures de diminution de la transmission, et vacciner les gens essentiellement pour diminuer le risque sanitaire et la saturation par des formes graves des hôpitaux français.
Et pour conclure, un dernier tour de table, ce qu'on disait d'ailleurs dès le début, et puis on le disait aussi maintenant avec beaucoup de modestie, hein, vous parlez de ce sujet. Il va falloir toujours continuer à apprendre à vivre avec le Covid, Philippe Amouyel.
Alors apprendre à vivre, non, on l'a déjà appris, il faut quand même continuer, il va falloir s'habituer, je pense que le monde d'après matière de Covid ne va pas revenir, enfin le monde d'avant, pardon, ne va pas revenir. Hein. Le deuxième point, c'est que j'espère qu'on va apprendre beaucoup de... cet épisode d'utilisation des gestes barrières, parce qu'on a vu l'efficacité sur la grippe, les gastro-entérites. Donc si maintenant dans les métros et dans les transports en commun, on se remettait à porter le masque, même quand on sera sorti un jour de cette épidémie de Covid, ne serait-ce que pour se protéger de la grippe ou d'autres mécanismes de transition, que les Français prennent l'habitude de bien se laver les mains, on a augmenté franchement le pourcentage de la population qui se lavait les mains, ça sera utile pour la santé des Français et pour la santé des hôpitaux également.
Tout en prônant, hein, la troisième dose de vaccin, Philippe Amouyel.
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est un message que je veux passer, parce que là, on commence à voir dans les études en population qui sont sorties d'Israël le bénéfice de cette troisième dose par rapport à des gens qui ont une deuxième dose. Hein, ça diminue de 10 fois la transmission et de 20 fois le risque de faire une forme grave. Et ce qu'on voit en France, c'est que l'augmentation que l'on voit des tendances touche la tranche 60-80 ans et bien sûr la tranche des enfants. Mais la tranche 60-80 ans qui a été vaccinée très tôt et dont on pense que l'immunité actuellement est en train de faiblir. Donc il faut relancer cette troisième dose pour qu'on puisse passer un hiver plus serein.
Étienne de Crolly, la pandémie est-elle derrière nous ?
Non, je ne crois pas que la pandémie est derrière nous. Et je crois qu'on a encore beaucoup de marges de progrès et qu'il faut qu'on s'occupe des marges de progrès. Les marges de progrès, elles sont multiples. Elles sont dans le développement de nouvelles thérapeutiques, où on est encore loin du compte. Elles sont dans l'évolution de vaccins vers des vaccins qui sont meilleurs et qui protègent la transmission. Mais elles sont aussi dans des modifications, des systèmes d'aération et de conditionnement d'air, etc., dans les trains et autres transports et dans les bureaux. Et donc, on a toute une série de marges de manœuvre. Il faut qu'on mette en œuvre des situations telles que la transmission entre personnes soit minimisée, parce que justement on a des améliorations qui sont faites et des mesures collectives qui soient prises.
Et en guise de conclusion avec vous, François Bricaire, quelle piste de progression pouvons-nous prendre ou faire pour éviter la propagation du virus ?
Bah écoutez, je pense qu'on a dit un certain nombre de choses qui conduisent à continuer à expliquer, à fournir des messages et à justifier la validité de ce qui est demandé de façon à ce que ce soit respecté correctement le plus dans le pays et ailleurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera quand même à sortir de ce phénomène épidémique qui change nos vies. Et c'est des réflexions qui devront être conduites sur la façon dont on fait après l'épidémie.
Merci beaucoup à vous trois, François Bricaire, infectiologue, Philippe Amouyel, épidémiologiste, Étienne Decroly, virologue. Vous étiez à Lille, Paris, Marseille, le tout diffusé sur Radio France Internationale. Réalisé ce soir, ce débat par Jean-Philippe Thury, coordination Florence Ponce, rédaction en chef Patrick Adam. RFI Challenge.